petite famille.
Bonjour et bienvenue à tous. L'émission Vie de famille d'aujourd'hui vous est présentée par Stéphanie Léger et nous allons voir comment une entreprise peut aller au-delà de la recherche du profit et donner du sens au travail. En effet, il s'agit d'un questionnement majeur pour les salariés. Un salarié sur deux a choisi son métier pour répondre à une quête de sens, mais 55% jugent que le sens au travail s'est dégradé. Que signifie donner du sens au travail ? Cela entre-t-il dans la responsabilité de l'entreprise ? En quoi cela profite à l'entreprise ? L'épanouissement et le bien-être au travail est-il une source de motivation ? On entend beaucoup parler de responsabilité sociale de l'entreprise ou encore RSE de l'entreprise comme lieu privilégié d'insertion, mais qu'est-ce que cela recouvre exactement et comment mettons en pratique cette politique concrète dans l'entreprise ? C'est ce que nous allons voir avec vous, Olivier Riom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'une entreprise de la région nantaise qui s'appelle Vivolum. C'est une entreprise du second œuvre du bâtiment qui a 60 salariés et qui est située à Treillières, donc pas très loin de Nantes. Et c'est de cette entreprise, donc Vivolum, pardon, je le prononce mieux, dont nous allons parler. Olivier Riom, vous avez créé ou bien vous avez repris Vivolum ? Comment ça s'est passé au départ ?
J'ai racheté Vivolum il y a 14 ans maintenant. Et à l'époque, ça s'appelait Volutique. J'ai créé Jugeur. Et puis, changement de positionnement, maintenant, ça s'appelle Vivolum.
Très bien. Quelle en est l'activité exacte ? On a dit que c'était dans le second œuvre du bâtiment. Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Alors, on conçoit, on réalise des travaux d'aménagement de locaux professionnels, donc principalement des bureaux. Mmh. Et effectivement, tous les lots architecturaux, donc le placo, les murs, les plafonds, le sol, la peinture, la menuiserie. Donc, l'ensemble de l'aménagement intérieur.
Donc, vous avez du personnel qualifié ?
Donc, des compagnons qualifiés, effectivement, polyvalents, puisqu'ils font, chacun réalise plusieurs compétences techniques. Et on est 50 compagnons sur chantier, oui.
Et qu'est-ce que, on a parlé de sens au travail. Pour vous, cela signifie quoi ? Et depuis quand vous avez voulu créer cette politique dans l'entreprise ?
Alors d'abord, vous avez donné du sens. On est tous en recherche de sens. Ce n'est pas moi qui forcément donne le sens de chacun. On a eu une politique sociale assez forte dès le début, que j'ai racheté il y a 14 ans, puisqu'au début, on a recruté beaucoup de personnes de milieu carcéral et des gens du voyage. Donc pour cela, on a formé nos chefs de chantier à savoir transmettre une compétence, c'est-à-dire passer du savoir-faire au faire-savoir, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis, on leur a appris à évaluer des compagnons sur leur savoir-être plus que leur savoir-faire.
Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas forcément formés, ces personnes qui étaient issues de milieux éloignés de l'emploi ?
Voilà. On a un métier compliqué de bien faire un aménagement de bureau, mais avec des tâches élémentaires assez simples. Poser une plaque de placo ou une plaque de plafond peut être assez simple. Et donc, on a décomposé nos métiers en tâches élémentaires simples pour pouvoir intégrer et insérer des personnes qui ne connaissent pas forcément le métier. Puis après, on est là pour les former et les intégrer dans l'entreprise.
Donc vous avez voulu faire de l'insertion dès le début de personnes qui n'étaient pas forcément déjà dans l'entreprise, dont ce n'était pas le métier à l'origine. Et quel était votre but ? Pourquoi vous avez voulu faire ça, ce mélange finalement entre des personnels différents ?
Alors quand j'ai fait ça en 2005-2006 au début, on recherchait des compagnons qualifiés et il était difficile de trouver des personnes. Mmh. Et j'ai trouvé intéressant, je crois que l'entreprise est vraiment un facteur important d'insertion. L'insertion par le travail, c'est vraiment une notion importante. Et donc voilà, au début c'était un peu une démarche individuelle que j'ai portée. Et rapidement, c'est pour ça que vous donnez du sens, je me suis aperçu que c'est devenu l'ADN de l'entreprise. Mes chefs de chantier souvent faisaient leur travail, gagnaient leur vie en travaillant, et puis le week-end s'investissaient dans des associations ou bénévoles. Et finalement, ils retrouvent à travers leurs actions de travail d'entreprise un sens pour intégrer et favoriser l'insertion de jeunes. Donc il se passe plein de belles choses dans l'entreprise. J'ai vu des chefs d'entreprise qui donnaient des cours de français le soir aux apprentis qu'ils avaient en responsabilité. Voilà, il y a des vrais liens d'amitié qui se créent au sein de l'entreprise.
Vous parlez d'ADN, c'est un mot fort, effectivement. On a vraiment l'impression que ça a transformé le climat de l'entreprise.
Oui, je pense vraiment que c'est une des valeurs fortes de l'entreprise et qu'aujourd'hui, le niveau de satisfaction est lié à la satisfaction de nos clients, évidemment, mais aussi au respect qu'il s'est mis dans l'entreprise. Je crois qu'il y a un respect assez fort de chaque collaborateur.
Et que les personnes qui donc étaient, vous parliez de milieux carcéraux ou de personnes des migrants aussi, vous avez embauché, je crois.
Oui, alors plus récemment, effectivement, on a embauché cette année 6 ou 7 personnes issues d'immigration, réfugiées. Et c'est vrai que c'est un vrai modèle économique, puisque ce sont des personnes qui ne connaissent pas forcément le métier, mais par contre hyper impliquées, très volontaires. On leur donne une chance et ils savent vraiment la saisir. Et aujourd'hui, faire confiance à ces populations, pour nos entreprises, d'une façon générale, c'est une vraie opportunité. Donc voilà, je crois vraiment que c'est un beau modèle économique et qui marche bien. Aujourd'hui, on a fait chuter notre turnover et les personnes les plus impliquées sont des personnes qu'on a su aider à des moments importants de leur vie, quoi.
Oui, parce que vous disiez que vous aviez un peu de mal à trouver des personnes impliquées, peut-être tant que vous n'aviez pas choisi ce modèle. Oui. Peut-être que c'est un exemple aussi que ces personnes-là donnent aux autres, finalement. De les voir saisir leur chance, comme ça.
En fait, il y a plusieurs aspects de ce modèle. Il y a effectivement des personnes qu'on récupère et qui sont impliquées puisqu'elles saisissent vraiment leur chance. Pour nous, pour l'ensemble des personnes de l'entreprise avec un cursus plus linéaire, on se rend compte des épreuves qu'elles ont pu traverser. Et on se dit, on a une vraie chance d'avoir un travail dans une bonne entreprise. Donc voilà, on relativise beaucoup de choses, notamment avec les migrants en ce moment, qui ont traversé des moments très difficiles. Et on se dit, on ne fait pas grand-chose que leur permettre de travailler, mais c'est déjà beaucoup.
Comment vous faites pour les recruter ? Vous avez des associations qui vous aident ou vous les trouvez comment ? Et quels sont vos critères de recrutement ?
Alors, c'est un petit peu comme la chance, c'est-à-dire que ça se provoque un petit peu. C'est vrai qu'on a une certaine ouverture par rapport à ça. On passe effectivement souvent par des associations, puisque, outre le travail, il y a beaucoup d'enjeux pour accueillir un personnel migrant ou même du milieu carcéral. Mais il y a un accompagnement social qui est important, un accompagnement juridique pour les régularisations des papiers. Donc, on passe par des associations. À Nantes, on a notamment Job4Me qui fait un très beau travail d'accueil. Donc, je crois que ça se passe si chacun fait sa petite part. Enfin, c'est un peu comme les colibris. Moi, je fais la part de formation au travail. Et puis, il y a les autres associations qui font leur part d'accueil.
Et vous faites même plus que votre part s'il y a des salariés qui donnent de leur temps pour aider à des cours de langue pour certains personnels.
Oui, c'est ça. C'est collectif, oui.
Nous rappelons que nous sommes dans l'émission Vie de famille. Nous sommes avec Olivier Riomme, qui est président de Vivolume, une entreprise du second œuvre du bâtiment qui est située à Treillières dans la région nantaise. Et vous avez voulu, Olivier Riomme, donner du sens au travail dans cette entreprise de différentes façons, notamment en embauchant, en faisant de l'insertion, donc en embauchant du personnel qui est éloigné ou qui était éloigné de l'emploi. Quand on fait ce genre de choses, il y a parfois des échecs, j'imagine. Comment vous faites pour gérer ça ? Est-ce que les personnes que vous formez parfois s'en vont ou ne poursuivent pas leur chemin dans l'entreprise ?
Alors, il y a deux notions qui me paraissent très contradictoires. C'est l'échec et des personnes qui ne restent pas. Je m'explique. Je pense que l'entreprise est un facteur d'insertion important. L'une des missions de l'entreprise est effectivement de contribuer à cette insertion. Et donc, de temps en temps, on a des jeunes qui arrivent, que l'on forme et qui partent. Et néanmoins, ce n'est pas un échec,
parce qu'on
a vraiment contribué à cette intégration. Certes, il n'est pas resté. Si on regarde que d'un point de vue financier, c'était l'objet de votre introduction, financièrement, je n'ai pas fait une bonne affaire puisque j'ai formé quelqu'un qui est parti. En termes d'intégration, je pense qu'on a fait une bonne affaire puisqu'on a remis le pied à l'étrier à quelqu'un qui, fort de l'expérience qu'il a acquis chez nous, peut aller ailleurs.
Donc, c'est un changement de mentalité quand même, non ?
Oui, je pense que, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui intègrent cette dimension sociale et c'est important, je pense. Et puis l'autre effet bénéfique, même si la personne part, c'est de mettre au cœur de l'entreprise la fragilité et la vulnérabilité. Je crois que c'est un leitmotiv très fort. L'entreprise est forte de ses faiblesses. L'entreprise est forte de la faiblesse de chaque collaborateur reconnu et accepté. Mais on n'est pas dans des entreprises On avait tendance à dire que la résistance d'une chaîne se fait par le maillon le plus faible. Je crois que nos entreprises aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plutôt comme un cerveau avec tout un réseau qui doit collaborer. Et puis quand il y a une cellule un peu moins forte, alors le réseau se renforce pour aider cette...
Et vous la sentez, cette solidarité ?
Oui, oui, oui. On la sent. Et surtout que c'est vraiment important de remettre la fragilité. C'est pour ça que nos entreprises sont humaines, à taille humaine, quelle que soit la taille. Mais la dimension humaine de l'entreprise est un aspect essentiel. Sinon, on se retrouve avec des machines et l'intelligence artificielle nous dépassera rapidement. Alors que tant qu'on valorise l'homme dans sa grandeur, mais aussi dans sa faiblesse, alors l'entreprise devient humaine et attachante. Et c'est pour ça qu'on s'investit dans l'entreprise.
Alors, ces valeurs que vous défendez, Olivier Riom, ça vient peut-être de votre expérience personnelle, de votre engagement dans des associations. Parlez-nous un petit peu de cela, dans quel type d'association vous êtes engagé, qui fait que vous avez une vision un peu, peut-être un peu différente de ce qu'on entend habituellement en tant que chef d'entreprise.
Alors, je ne sais pas si elle est différente. Elle est, je crois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui privilégient cet aspect social. Je suis notamment impliqué aux dirigeants responsables de l'Ouest, qui est une association qui met la RSE au cœur de sa stratégie, considérant effectivement que les entreprises qui se positionnent sur les aspects sociaux, sociétaux et environnementaux, demain assureront une meilleure pérennité à l'entreprise. Donc on est 100 chefs d'entreprise dans cette association et on travaille, chacun expérimente sur un sujet ou un autre. Et moi, de mon côté, ça m'aide pour des sujets sur lesquels je peux être plutôt en recherche, quoi, un petit peu l'environnement. Aujourd'hui, on a fait beaucoup en termes social, moins en environnement, donc cette association m'aide de mon côté.
Vous dites que, qu'effectivement, il y a une évolution de la part des chefs d'entreprise, plus en se tournant vers la RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise. Comment vous pouvez le remarquer, peut-être dans d'autres entreprises, ou est-ce que... Oui, vous parlez de l'environnement par exemple, vous parlez de... Est-ce que c'est profitable quand même ? Est-ce que finalement tout cela profite à l'entreprise ?
Ah oui,
au final ?
Alors c'est profitable. On a eu, au sein des RO et du CJD, nous avons eu plusieurs commissions, l'une notamment sur qui s'appelait RSE et Banque.
Je vous arrête, CJD ?
Centre des jeunes dirigeants, pardon, une association de dirigeants nationale. Et on a fait une étude pour valider que la pérennité des entreprises en fonction de leur implication RSE. Et on a, alors sans rentrer dans le détail, parce qu'il y a des études très intéressantes sur le sujet, on a travaillé avec la Banque de France, qui a permis d'évaluer la performance des entreprises qui avaient une politique RSE. Et effectivement, on peut constater à travers les chiffres et la pérennité des entreprises qu'une entreprise qui est soucieuse de son environnement, au sens large, social, sociétal ou environnemental, est plus performante, en tout cas sur du moyen terme, et même sur du court terme.
Déjà, elle va produire du bien-être au travail pour ses salariés. Et peut-être qu'effectivement, ça se ressent aussi à l'extérieur de l'entreprise, auprès des partenaires de l'entreprise.
Oui, l'ensemble des parties prenantes. Le respect des parties prenantes, c'est un point essentiel. Alors, dans votre introduction, vous parliez de sens et de mission. Alors, on a eu un grand débat sur l'entreprise à mission, puisque dans la loi Pacte, il y a eu un article qui a été débouté par le Sénat sur l'entreprise à mission. Pour nous, c'est vraiment important. La seule finalité, on n'est plus dans le modèle de Friedman, où la finalité de l'entreprise, c'est de rapporter le maximum, maximiser les profits pour les actionnaires. Je crois qu'aujourd'hui, on en est très loin. Et effectivement, l'implication sociale et sociétale des entreprises est un aspect essentiel.
Et qui, et les salariés, finalement, comptent sur vous pour cela. On a dit dans l'introduction que pour eux, c'était quand même très, très important.
Ah oui, oui.
D'aller travailler en ayant envie que leur travail ait un sens.
Oui. C'est pour ça que je crois que tout ce projet d'entreprise, c'est un projet collectif. Ce n'est pas moi qui le porte, j'en suis le porte-parole, mais c'est vraiment chaque, dans mon entreprise, chaque collaborateur, chaque chef de chantier qui est partant et volontaire pour cette démarche.
D'ailleurs, je pense que là, nous sommes dans des locaux que vous avez contribué à recréer. Et je vous en remercie parce que c'est très agréable.
Tout à fait, oui.
Si on parlait un tout petit peu avant la fin de notre émission de votre implication dans d'autres associations, vous avez parlé de DRO, vous avez parlé, non, vous n'avez pas encore parlé de 60 000 rebonds. Je crois que vous faites partie, vous êtes même vice-président de cette association dans le Grand Ouest, 60 000 rebonds.
Oui, oui, je suis vice-président de l'association 60 000 rebonds qui est venue faire une table avec vous récemment. Effectivement, c'est une association qui aide les entrepreneurs qui ont connu la liquidation judiciaire à rebondir. puisqu'on se rend compte qu'après une liquidation judiciaire, c'est un vrai traumatisme sur beaucoup de sujets. Mmh. Et donc, il faut, pour pouvoir rebondir, être aidé, accompagné. Et donc, on aide ces entrepreneurs. Et puis, on est, le second objet social de l'entreprise, c'est de l'association, pardon, c'est de changer le regard sur l'échec. On en parlait tout à l'heure, on a un regard très négatif aujourd'hui sur l'échec, alors que c'est une vraie... Accepter l'échec dans l'entreprise est vraiment important pour générer de la créativité et de l'innovation. Si on n'accepte pas l'échec, alors on ne change pas. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'il est important d'accepter l'échec pour pouvoir grandir et évoluer.
Oui, vous nous parlez bien de l'échec comme finalement un tremplin, comme vous avez parlé de la faiblesse aussi, qui est quelque chose qui n'est pas à rejeter, bien au contraire.
Oui, oui. Hein, la faiblesse, quand on voit des chefs d'entreprise broyés par une liquidation judiciaire, alors qu'ils ont eu le talent de créer et développer leur entreprise, on contribue vraiment à les aider à se reconstruire personnellement et puis à reconstruire un projet professionnel. Donc c'est une belle association qu'on essaye de développer parce qu'elle est encore pas suffisamment connue. Et finalement, on veut montrer que quand un entrepreneur veut se lancer, il y a des associations qui sont là pour les aider. Il y a le Réseau Entreprendre, il y a le CJD, il y a des associations pour les aider à se développer. Et puis, il y a aussi des chefs d'entreprise qui se mobilisent bénévolement, évidemment, pour les aider en cas d'échec. Et donc, là aussi, ça contribue à l'écosystème qui favorise la création d'entreprises.
Olivier Riom, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé dans cette association plus particulièrement ?
Alors, de mon côté également, j'ai connu un échec important puisque donc je vous ai expliqué que j'ai racheté l'entreprise en 2004. On a eu une forte croissance puisqu'on est passé de 60 collaborateurs à 130 en l'espace de 4 ans. Et puis, donc j'avais 3 entreprises, Volutic, Jugeur et Jugeur Atlantique. Et j'ai eu des difficultés de trésorerie qui m'ont amené en sauvegarde. Donc j'ai mis en sauvegarde les 3 entreprises et j'ai été amené à aller en liquidation judiciaire pour 2 entreprises, les 2 entreprises qui faisaient du logement notamment. Et j'ai fait le choix de ne conserver que l'activité de bureau qui s'appelle maintenant Vivolume. Donc c'est effectivement une période très difficile, cette période après une croissance de connaître la sauvegarde et la liquidation judiciaire. En même temps, ça a renforcé les liens avec les collaborateurs qui sont restés. Et je pense qu'on a réussi à se sortir de cette période, puisque pendant toute cette période, la phase de croissance, on a su entretenir des relations avec nos fournisseurs, nos clients et même les collaborateurs, qui a créé cet écosystème qui nous a permis de nous dire « Allez, on va s'en sortir ensemble » et aider par la bonne volonté de chacun, on a réussi à sauver l'entreprise. Je suis sorti de sauvegarde en 2015. J'avais perdu à ce moment-là la majorité de l'entreprise puisque il y a le groupe Lucas qui est venu renforcer le capital. Et puis, il y a 2 mois, le groupe Lucas a quitté l'entreprise. J'ai repris la majorité de l'entreprise et j'ai fait le choix d'associer 2 salariés à l'entreprise. Donc voilà, l'histoire continue.
C'est tout récent, ça.
C'est tout récent, tout à fait. Et elle va bien maintenant. Donc, on fait uniquement de l'aménagement de bureaux. Mais en développant des sujets qui nous sont chers sur le bien-être, qu'on conçoit des bureaux, on essaye vraiment de voir des méthodes agiles d'organisation pour correspondre aux nouvelles façons de manager.
Oui, j'imagine que vous faites une belle étude de besoins avant avec l'entreprise pour essayer de concevoir des espaces de travail agréables. Mais pour revenir à 60 000 rebonds, vous connaissez déjà cette association quand vous en avez eu besoin ou non, vous n'avez pas fait appel à eux, peut-être elle n'existait pas encore d'ailleurs.
Alors, elle existait, mais je ne la connaissais pas. Mmh. J'étais au centre des jeunes dirigeants dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ce qui m'a notamment aidé à m'en sortir, c'est que j'ai eu un groupe de jeunes dirigeants qui étaient autour de moi et qui m'ont aidé dans toute cette période difficile à prendre le recul nécessaire. Et donc, c'est vraiment grâce à ce petit groupe que j'ai réussi à m'en sortir. C'est pour ça que quand le président Philippe Fourquet, président de 60 000 rebonds, m'a proposé, je me suis dit, j'ai beaucoup reçu dans une période difficile, donc il me paraissait cohérent à mon tour de rendre un petit peu.
Mais vous n'avez pas hésité à demander de l'aide, ce qui n'est pas toujours facile à faire, ni évident, quand vous en avez besoin.
Oui, oui, c'est sûr que c'est l'une des difficultés, c'est d'être isolé quand on est dirigeant. tout d'un coup, on devient sur le côté, on passe sur le côté, enfin, on n'est plus contacté, on est très mal vu parce que, voilà, il y a des difficultés réelles, on a un passif, on doit de l'argent à beaucoup de monde, et donc c'est un moment très difficile.
Et l'échec est mal vu, comme on le disait tout à l'heure.
Voilà, l'échec en France notamment, pour l'instant, est encore très mal vu, n'est pas vu comme une acquisition d'expérience, mais le plus important, c'est savoir comprendre les raisons de l'échec, c'est-à-dire prendre toute sa part de responsabilité, mais que sa part de responsabilité, puisqu'on trouve des dirigeants qui sont soit dans le déni, expliquant que les banquiers, les clients, les fournisseurs, tout le monde a été mauvais avec eux, soit à prendre toute la faute de la liquidation et dire voilà, je suis mauvais, j'ai échoué. Donc on essaye d'aider les dirigeants à prendre leur part de responsabilité, mais que leur part de responsabilité.
Et vous essayez de changer le regard sur l'échec de la part du monde, enfin de la société tout entière. C'était aussi un des buts de l'association, vous l'avez dit.
Oui, ce regard sur l'échec est effectivement important pour assumer sa responsabilité, mais que sa responsabilité.
Et non seulement vous participez à cette association 60 000 rebonds, mais vous êtes aussi membre de la fondation Lazare.
Tout à fait, l'association Lazare qui aide les gens à la rue à retrouver un toit et puis à les réintégrer. Donc on a fait l'année dernière une extension de la maison Lazare rue du Refuge. Et à l'issue de cette rénovation, ben on a eu l'occasion d'embaucher une personne issue de la maison, donc qui était à la rue, qui est maintenant en CDI dans l'entreprise.
C'est ce que j'allais vous poser comme question, effectivement. Ça peut être un vivier pour vous aussi de...
C'est un vivier, surtout ça avait du sens de contribuer à la rénovation de cette maison en aidant l'insertion, encore une fois, par le travail, est un axe d'insertion important. Et puis à la Maison Lazare, on a un autre gros projet, donc là aussi, c'est pour ça qu'il y a des ambassadeurs et on va essayer de créer un collectif d'entreprises. Et pourquoi on aide cette maison notamment? Et c'est à peu près le même sujet, c'est accepter la fragilité. Je crois, est une belle dimension dans l'entreprise et c'est ce qui renforce nos entreprises. Donc je trouve que c'est important, on est une dizaine d'entreprises à accompagner l'association Lazare, et c'est bien pour l'association, mais aussi pour nos entreprises.
Donc vous voulez mobiliser peut-être davantage d'entreprises autour de ce projet?
Tout à fait. Oui, on a en ce moment un gros projet de mobilisation. Donc,
faites un appel aux entreprises de la région.
Tout à fait.
Merci Olivier Rium d'être venu nous expliquer comment vous fonctionnez dans Vivolume, cette entreprise donc de la région nantaise qui emploie 60 personnes, qui est une entreprise du second œuvre du bâtiment. Vous nous avez expliqué toute son activité et vous en êtes le président. Vous avez donné là une place importante aux personnes éloignées de l'emploi que vous avez contribué à réinsérer. Vous avez également, en faisant cela, permis à tous les partenaires de l'entreprise d'avoir une autre perception, peut-être, de faire mieux comprendre le rôle social d'un entrepreneur. Un article des Échos titré en janvier 2019, Vivolume, champion de l'embauche des migrants. En plus, cela peut vous faire une bonne publicité. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Merci également à nos auditeurs pour leur écoute fidèle et active. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
C'était Vie de famille.